Lionel, bonjour.
Bonjour.
Nouvel numéro d'En route vers les étoiles. Et aujourd'hui, un sujet passionnant parce que d'un point de vue visible, quand on regarde ce qui se passe, c'est magnifique. Il s'agit des aurores boréales.
Ah ouais, c'est un des plus beaux spectacles célestes qui soit. Alors, dans le dynamisme surtout, hein, pas tellement les couleurs, parce que l'œil n'est pas très sensible aux couleurs, contrairement aux n'importe quel appareil photo, smartphone, tablette. Où là, les aurores, c'est d'un vert, mais c'est fabuleux, même avec un peu de rouge, on en parlera, d'où viennent ces couleurs-là. Mais en fait, actuellement, on est au maximum du cycle numéro 25 d'activité du Soleil. Et là, bah, il nous envoie un maximum de particules vers la Terre, alors dans toutes les directions bien sûr, mais en particulier vers la Terre, et c'est ça qui nous intéresse. Et ces particules, lorsqu'elles entrent en contact avec le champ magnétique terrestre, et surtout avec l'atmosphère et les molécules, les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre, et c'est ça qui crée les fabuleuses aurores polaires. Boréales au nord, australes au sud, hein, elles sont vraiment, c'est symétrique. Hein. Mais c'est plus facile d'aller dans les pays scandinaves que d'aller en Antarctique pour aller les voir, donc on parle surtout d'aurores boréales, donc de l'hémisphère nord.
Alors j'essaie de tempérer votre enthousiasme, bien sûr, parce que certes c'est beau, mais certes ça veut pas dire forcément qu'il se passe des choses pour notre technologie qui sont adéquates de par le soleil.
Tant que c'est pas trop violent, c'est pas le problème. Mais effectivement, comme tout est lié, on va dire à l'activité solaire, au tempérament du soleil, il se peut que lors d'une énorme éruption solaire, là, ça fasse un petit peu de dégâts sur tout ce qui est électrique, les satellites ou même électrique au sol pour nous. Bon, mais on n'a pas eu d'énormes éruptions solaires depuis très longtemps. Heureusement, la dernière, c'était en septembre 1859.
Voilà, et nous n'étions pas encore nés. Voilà, à bientôt, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, peut-être allez-vous commencer cette émission pour nous expliquer ce qu'est une aurore boréale.
Alors quand je parlais de particules solaires, ce sont des particules chargées. Alors elles forment ce qu'on appelle le vent solaire. Donc il y a un flot régulier de vent solaire qui s'échappe dans toutes les directions dans le système solaire. Et en particulier bah, vers la Terre, il n'y a pas de problème. Ce flot de particules sont des protons et des électrons, donc des particules chargées qui vont justement entrer en interaction avec les champs magnétiques. Il n'y en a pas que sur Terre, et donc des aurores polaires, on peut en voir aussi sur Jupiter, sur Saturne, parce qu'elles disposent d'un champ magnétique. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la Terre. Et ces particules chargées voyagent plus ou moins vite dans l'espace, entre le Soleil et la Terre. Elles mettent à peu près, on va dire, entre 2 et 4 jours pour venir sur Terre. La vitesse typique de déplacement, c'est 400, 500, 600 km par seconde. Là, je viens de regarder là sur une application là dont je dispose sur mon téléphone, pour les prévisions des aurores polaires, par exemple. Là, aujourd'hui, on est à 437 km par seconde, par
c'est
exemple,
énorme.
Le flot actuel. Alors, ça varie en vitesse, ça varie en densité aussi. Il peut y avoir des nuages bien plus denses de particules. Donc là, on a un paquet de particules qui arrivent d'un seul coup. Ça vient des colères du soleil, bien évidemment. Et à ce moment-là, ça créera des aurores avec d'un seul coup une énorme intensité lumineuse. Et après, ça diminuera en intensité. Donc, ce qui est aussi fascinant et, j'allais dire, carrément hypnotisant dans ce spectacle des aurores polaires, c'est le côté imprévisible et l'évolution du phénomène. Donc, il y a des endroits où d'un seul coup, ça deviendra brillant et ça va se déplacer d'un horizon à l'autre, comme les rideaux d'un, ça me fait toujours penser, un rideau de théâtre. Donc des ondulations comme ça, que quelqu'un bougerait d'un côté et les ondulations se propagent jusqu'à l'autre côté de la scène. C'est vraiment ça qu'on a dans le ciel et on n'arrive pas à prévoir, on peut pas prévoir en fait l'intensité lumineuse. Donc on admire le spectacle et on voit que ça évolue dans le temps. Ça évolue dans l'espace aussi parce que ça va d'un horizon à l'autre. Ça peut être à l'horizon puis ça monte vers le zénith et ça passe de l'autre côté. Enfin c'est vraiment un spectacle fantastique. Et donc on peut avoir des prévisions assez fiables, mais finalement assez court terme, parce qu'on a des satellites qui sont situés, on va dire, dans l'espace, entre le Soleil et la Terre. Et donc on peut prévoir, en fonction de ce que eux mesurent à 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais entre la Terre et le Soleil, on peut prédire ce qui va arriver réellement sur la Terre peu de temps après. Alors d'où ça vient? Ça vient finalement de la météo solaire. Le Soleil, c'est une grosse dynamo, il a un énorme champ magnétique, il a un pôle nord, un pôle sud, comme sur Terre. Mais le Soleil, c'est quand même beaucoup plus fluide que ce que connaît la Terre. Et cette dynamo-là, cet aimant-là, solaire, a un cycle. Et les pôles nord et sud s'inversent tous les 11 ans.
Donc, un peu comme ça se fait aussi sur Terre aussi.
Alors ça se fait sur Terre.
Sur des périodes plus longues.
Le cycle est moins régulier.
Ouais, là,
les périodes sont bien plus longues.
Ouais.
Parce que probablement que la Terre, c'est plus solide que ce dont est composé le Soleil.
D'accord.
Donc sur le Soleil, c'est extrêmement régulier. Alors, à 1 ou 2 ans près parfois, mais le cycle c'est 11 ans. Donc tous les 11 ans, le pôle Nord devient pôle Sud et le pôle Sud devient pôle Nord. Finalement, le cycle il dure 22 ans. Donc un cycle, ça se mesure, c'est quand on revient à la situation initiale, et l'état initial, par exemple, c'est le pôle Nord devient Sud, puis redevient Nord. Là, c'est un vrai cycle, c'est 22 ans. Mais finalement, ce qui nous intéresse, nous, peu importe si c'est un pôle Nord ou un pôle Sud, il se passe quelque chose sur une durée de 11 ans, et pendant cette période-là, donc pendant la majeure partie du temps de cette période-là, le soleil est calme, le pôle Nord est tranquille au Nord, le pôle Sud est tranquille au Sud, il se passe rien de particulier. Par contre, il y a toujours ce vent solaire qui s'échappe. Donc il y a toujours un flot de particules relativement régulier, continu dans le temps. Et on peut même voir en période de minimum d'activité, on peut arriver à voir des aurores quand même dans ces pays-là. Faut vraiment être au niveau du cercle polaire arctique ou antarctique, mais on va dire au niveau du cercle polaire arctique. Donc c'est plutôt Rovaniemi pour la Finlande, c'est les îles Lofoten ou Tromsø. Moi je reviens de Tromsø par exemple. Donc là c'est vraiment au nord du cercle arctique en Norvège. Donc dans ces zones là, on peut voir régulièrement des aurores, mais en période de minimum d'activité solaire, ce sont plutôt des aurores de faible intensité. Par contre, au moment où le soleil va commencer à inverser ses pôles, le champ magnétique et les lignes de champ magnétique du soleil ne sont pas gentiment, elles vont pas d'un pôle à l'autre, elles percent la surface du soleil à peu près n'importe où. Et donc, à ce moment-là, la matière solaire emprunte ces lignes de champ magnétique, ça fait des boucles, ça fait les protubérances à la surface du soleil, et parfois, il peut y avoir une rupture dans la boucle, et là on a carrément une éruption solaire qui peut se diriger carrément vers la Terre. Si elle se dirige de l'autre côté, il n'y a rien qui vient vers nous, rien de particulier. Par contre, s'il y a une éruption solaire, une éjection de masse coronale qui vient vraiment vers la Terre, là on est dans une autre dimension au niveau de la vitesse des particules, de la densité des particules, de la puissance des particules. Et là ça change tout. Et lorsqu'on a une énorme éruption solaire qui vient vers la Terre, alors là, l'intensité lumineuse des aurores, c'est fabuleux. Et dans le dynamisme, ça va extrêmement vite.
D'accord. Tout à l'heure, vous nous parliez de la vitesse, justement, de ces particules, du vent solaire. Est-ce qu'il peut aller beaucoup plus vite que ces 400 km/s?
Ça peut monter à 500, 600, 800 km/s. Ouais. Donc tout dépend de l'intensité
de l'éruption.
De l'éruption solaire.
Ouais. D'accord.
Il peut y avoir des éruptions solaires sans des éjections de masse coronale. Si on va dire la boucle magnétique à la surface du Soleil parvient à retenir cette éruption-là, ça reste au niveau du Soleil.
D'accord.
Mais s'il y a vraiment rupture dans le champ magnétique du Soleil au niveau de l'éruption, là, les particules sont envoyées dans l'espace. Il peut y avoir aussi un manque, on va dire, de champ magnétique, on appelle ça un trou coronal, et là, les particules s'échappent plus librement de la surface du Soleil. Donc c'est même en période de minimum d'activité, quand il y a des trous coronaux au niveau du Soleil, il y a un flot de particules un peu plus intense qui peut venir sur Terre. Donc on peut même voir quand même des aurores polaires, même en période de minimum d'activité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces particules qui viennent du Soleil, elles viennent directement sur la Terre, mais elles ne bombardent pas directement la Terre. Sinon, on aurait des aurores partout, même au niveau de l'équateur. Maintenant, on a notre bouclier magnétique qui nous protège.
Mais on en a eu au niveau de la France il y a quelques mois.
Absolument, mais là, ça dépend de la puissance des particules qui peuvent descendre à des latitudes plus basses.
Mais
on va dire.
Mais c'est pas le cas que vous voulez nous parler. Voilà, normalement.
Alors, on est protégé directement par le bouclier magnétique.
Oui.
Ce bouclier magnétique, en gros, on a une grosse dynamo qui nous protège jusqu'à 10 fois le rayon de la Terre. 10 rayons terrestres, ça veut dire que quand on regarde en direction du Soleil, on a un bouclier qui va jusqu'à 60 000 kilomètres. 60 000 kilomètres. Ça veut dire que on est protégé, par exemple, dans la station spatiale internationale, on est à 400 km. Par contre, 60 000 km, on n'est plus protégé par le champ magnétique terrestre si on va sur la Lune. Parce que là, on est à 400 000 km. Donc, le bouclier magnétique terrestre protège, donc la magnétosphère, protège les satellites en orbite basse. Même les satellites géostationnaires, ils sont à 36 000. Et là,
donc
on va jusqu'à 60 000.
Ouais, d'accord.
Donc, on va dire, en temps normal, notre champ magnétique nous protège des particules. Donc lorsqu'on a un flot de particules qui vient heurter ce bouclier magnétique là, il empêche les particules de traverser l'atmosphère et d'atteindre le sol. Les particules qui sont chargées vont suivre les lignes de champ magnétique et vont se retrouver à l'arrière de la Terre, donc dans la queue magnétique de la Terre. Et là, la queue, par exemple, puisqu'on a un vent solaire constant, on est à 60 000 km d'altitude face au Soleil, mais la queue peut s'étendre jusqu'à 300 000 km. C'est pratiquement à distance Terre-Lune, par contre. Donc, du côté de la queue, à l'opposé du Soleil, donc derrière la Terre, là, la queue magnétique va bien plus loin. Et les particules, il y a une recombinaison magnétique. Et là, les particules, en suivant le champ magnétique, en suivant les lignes de champ magnétique, elles arrivent au niveau des pôles. Puisque, imaginez un aimant avec des lignes de champ magnétique, ça va d'un pôle à un autre. Là où les lignes de champ magnétique peuvent aller jusqu'au sol, jusqu'au centre de la Terre évidemment, eh bien c'est au niveau des pôles. Et c'est là que les lignes de champ magnétique traversent l'atmosphère. Parce que il faut qu'il y ait quelque chose à traverser, des molécules à exciter, des atomes à exciter pour émettre de la lumière. Et donc c'est lorsque ces particules-là, en suivant les lignes de champ magnétique, en revenant de l'arrière, traversent notre atmosphère, c'est là qu'elles vont commencer à illuminer le ciel. Alors, d'où viennent les couleurs ? Pour les particules de faible énergie, on va dire en temps normal, elles restent au niveau à peu près à 180-200 km d'altitude. Et à cette altitude-là, il y a encore des résidus d'atmosphère, c'est les atomes d'oxygène. Et les particules qui ne sont pas très très énergétiques vont exciter les atomes d'oxygène et en se désexcitant, ils vont émettre dans le rouge. Ça veut dire que le haut, en très haute altitude, en gros à 200 km d'altitude, et on va trouver du rouge, essentiellement. Si les particules sont un petit peu plus virulentes, alors elles vont descendre un petit peu plus bas dans l'atmosphère. Et là, ces mêmes atomes d'oxygène vont être excités, mais avec une énergie différente. Et donc, il va y avoir des transitions énergétiques parce qu'elles vont venir percuter les électrons de nos atomes d'oxygène. Les électrons, en se désexcitant, vont revenir à leur état fondamental en émettant du vert. Donc, lorsque les particules sont un peu plus énergétiques et elles descendent jusqu'à à peu près 120 km d'altitude, entre 120 et 200 km d'altitude, on va surtout avoir du vert.
D'accord, c'est pour ça qu'il y a ces nuances. D'accord.
Voilà, c'est pas le même c'est niveau
simple.
D'énergie.
Ah, mais c'est très simple en fin de compte.
Absolument. Ouais. En fait, chaque couleur correspond à une énergie. C'est comme le spectre normal.
Du soleil le matin et le soir, on a du rouge, du rose ou du jaune.
Alors,
après,
c'est
un peu différent. C'est un peu l'excitation des molécules de l'atmosphère. C'est le même principe.
En fait, le soleil est rouge quand il traverse plus d'atmosphère, parce qu'il y a que le rouge qui est pas absorbé par l'atmosphère.
Mais disons, je faisais cette parenthèse pour expliquer que ce qui se passe avec les aurores, c'est
pareil. Correspond à une énergie.
Voilà. D'accord, on est d'accord.
Chaque couleur correspond à une énergie. Les plus faibles, c'est dans le rouge. Énergie plus forte, là, ça descend un petit peu plus dans l'atmosphère. Ça va exciter toujours les atomes d'oxygène en vert. Si les particules sont encore plus énergétiques, là, elles peuvent descendre jusqu'à 70, 75 km d'altitude. Ça reste toujours très haut pour nous.
Hein. Ah bah oui.
Les nuages, c'est 10 km. L'Everest, c'est 10 km. Les avions, c'est à peu près ça aussi. Là, on est quand même à 80 km. Là. Pour les particules les plus énergétiques, elles peuvent descendre jusqu'à 70, 75 km d'altitude, et là, elles vont venir exciter les molécules d'oxygène. Donc, c'est l'O2, c'est plus les atomes d'oxygène dont je parlais tout à l'heure. Et les molécules d'oxygène, en se désexcitant, vont plutôt rayonner en rose.
D'accord.
Donc, comme ces niveaux d'énergie-là sont plus rares, le rose, on le voit quand même beaucoup moins souvent.
J'ai compris.
Et puis, c'est un rose, on va dire, assez léger. Et il y a aussi les molécules d'azote qui, elles, vont rayonner en mauve. Donc, tout ce qui va être en dessous du vert, ça restera mauve et rose. Après, on a une grande partie dans l'atmosphère, ce sera du vert. Et au-dessus du vert, on va avoir le rouge. Et le rouge, c'est plus habituel. Et les aurores qu'on a vues en France, il y a quelques mois, comme on est assez loin du cercle polaire,
on ne voyait
que le haut de ce qu'on voyait eux là-bas, dans toutes les couleurs. Nous, on voyait le haut. Mais le haut, c'est du rouge.
C'est un peu comme
à notre horizon, à nous, on voyait des aurores plutôt rouges.
D'accord. C'est comme si on voyait qu'une partie de l'arc-en-ciel.
Absolument. On voyait qu'une partie des aurores.
D'accord.
Si on était en Norvège à ce moment-là, ou même en dessous, même en Angleterre, en Écosse, là, le spectacle, on aurait vu l'aurore dans toute sa splendeur, dans toute son étendue dans le ciel, on aurait vu à peu près le vert, le rouge et tout ça. Mais là, on était, nous, un petit peu plus au sud quand même, et donc on ne voyait que le haut du phénomène, donc on voyait à notre horizon, à nous, des aurores rouges. Donc là, c'est toutes les particules qui sont les moins énergétiques, qui restent très haut dans l'atmosphère. Alors ces couleurs-là, on ne les voit pas particulièrement à l'œil nu, parce que l'œil, c'est un piètre détecteur. La nuit, ce sont nos bâtonnets sur la rétine qui sont excités, ils ne voient pas en couleur. Donc tout ça, c'est au niveau de gris, sauf les aurores vraiment les plus violentes, où là, on commence à voir les couleurs. Lorsqu'un bolide, par exemple, donc on dit une grosse étoile filante, on appelle ça un bolide, traverse notre atmosphère, on voit une traînée verte.
Oui.
Parce que ce bolide-là, il vient comprimer, pareil, les atomes d'oxygène, et ces atomes d'oxygène, comme pour les aurores, en se désexcitant, émettent une lueur verte.
Mmh.
On voit très bien le vert. Donc si le vert devient très fort, alors là, on voit avec les cônes et on voit les couleurs. Mais la plupart des aurores, c'est en niveau de gris qu'on voit. Mais le spectacle est magnifique parce qu'en fait, c'est dans sa dynamique qu'il est spectaculaire.
Bien
c'est
sûr.
Un peu moins dans ses couleurs parce qu'on peut moins le voir.
Ouais.
Par contre, le moindre capteur, si on prend une photo, les capteurs sont les capteurs couleurs. Même en très faible lumière, on voit le vert. Et c'est comme ça qu'on peut se dire, si on regarde le ciel le soir, on se dit, bon, là, c'est un petit nuage ou c'est une aurore? On prend une photo, on dit, ah, c'est vert. Ah ben non, là, on est en train de voir une aurore, c'est pas un petit nuage. Parce
D'accord.
que c'est vraiment pas la même couleur.
Ah, bah, très intéressant. Très bien, on se fait une pause et puis on se retrouve pour la suite de ce sujet. Alors Lionel, on va parler, on va continuer à parler des aurores boréales. Vous nous avez expliqué comment on pouvait les voir, les différentes couleurs, les spectres. Voilà, et j'aimerais bien que vous nous parliez de, parce que même pour les ceux qui ne sont pas scientifiques et astronomes, encore plus bien sûr pour les astronomes et les scientifiques, mais des applications qui permettent de les observer, des outils qui existent.
Alors on a dit tout à l'heure, on peut pratiquement en voir tout le temps.
Oui.
Alors le soleil, il a des moments de colère où il nous envoie des bouffées de particules. Alors là, ce sera spectaculaire. Et il y a des moments où le soleil est à peu près normal, mais finalement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'aurore.
Mmh.
On a toujours un flot de particules, ce vent solaire-là qui circule dans tout le système solaire. Il atteint notre bouclier magnétique. Il peut y avoir des aurores. Donc, première chose, c'est évidemment, il faut que le ciel soit dégagé. Donc, quand on va dans les pays scandinaves, à la limite, quand il fait beau, quand le ciel est dégagé, il faut quand même sortir, on ne sait jamais. Mais il y a des applications qui existent pour les tablettes, les smartphones, qui permettent de faire des prévisions de la météo spatiale. Donc les colères du soleil, on a des satellites qui surveillent le soleil en permanence. Donc on est au courant de tout ce qui se passe sur le soleil, une éruption solaire. Est-ce qu'il y a un flot de particules qui se dirige vers la Terre ou l'éruption solaire, ça va diriger un flot de particules mais carrément dans une autre direction, aucune chance d'avoir des choses visibles sur Terre. Donc on a des satellites qui sont placés pour observer le Soleil et pour étudier tous ces paramètres-là. Donc il y a différents paramètres, il y en a un, c'est le paramètre KP par exemple, qui varie de 0 jusqu'à 9 ou 10. Et quand ce paramètre-là commence à dépasser les 3, là, on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui commence à être visible. Quand il atteint le 4, là, on a une petite tempête géomagnétique mineure. Mais on parlait il y a quelques mois, lorsque les aurores étaient visibles en France, là, le paramètre KP était à 9. Donc là, on
c'était
a une
énorme.
Tempête géomagnétique majeure, sévère.
Bien sûr.
Là, c'est niveau sévère qui était atteint. Et donc, quand c'est sévère, alors c'est très beau pour les Norvégiens, Finlandais et Suédois. Et chez nous, on voit quand même quelque chose.
Ouais.
Donc, plus la tempête géomagnétique va être importante, plus on pourra la voir même à de basses latitudes. En septembre 1859, le paramètre KP n'existait pas encore et les applis sur Smart Mode non plus. Mais c'est même à Cuba et dans les Bahamas qu'on voyait quand même les aurores polaires et on les voyait bien. Donc, on imagine ce que ça devait être. Là, c'était un flot de particules, mais phénoménal.
Ouais, ce qui fait que le phénomène qu'on a eu en France, c'était pas exceptionnel. Ça s'était déjà produit, effectivement, au 19e siècle.
Non, mais c'est rare. Non,
c'est rare.
Ça arrive plus souvent quand même.
Oui.
Ça arrive plus souvent que ça. C'est pas une fois par siècle quand même.
Mm.
C'est relativement rare. C'est pas une fois par an quand même.
Mm, oui.
Mais quand le soleil est vraiment en période d'activité intense, il peut avoir des colères. On a des groupes de taches solaires qui elles-mêmes sont liées au champ magnétique, bien évidemment. Donc on surveille ces grosses taches, ces gros groupes de taches solaires-là, qui peuvent envoyer régulièrement des faire provoquer des éruptions solaires et parfois des éruptions de masse coronale. Donc, il y a 3 semaines, par exemple, on surveillait un groupe de taches et ce groupe de taches-là a été à l'origine de plusieurs, 3 ou 4 éruptions solaires consécutives. En 2 jours d'intervalle, il y a eu 3 éruptions solaires importantes. Donc, on les classe. Alors, on les classe. Les M et les X sont les plus importantes. Il y en a eu 2 de classe M et 1 de classe X. Et une bonne classe X. Donc voilà, donc il peut y avoir des éruptions qui viennent de certains groupes de taches. Donc on surveille ça et il y a des applications qui permettent de prévoir, on va dire, si il va y avoir quelque chose. Et donc par exemple, bon, le 3 mars dernier, j'étais en Norvège, donc je suis allé passer une dizaine de jours en Norvège, entre autres pour aller voir les aurores polaires.
Entre autres.
Il faut aller voir ça, mais sinon on fait un peu de tourisme aussi.
Bah
voilà,
oui.
Voilà. Voilà, donc on est vraiment dans un pays, tout est enneigé, il y a de la glace partout, c'est vraiment l'hiver.
Il n'y a pas de pollution.
Il y a probablement pas de pollution.
Voilà,
non,
c'est
non.
ça.
Et donc, voilà, on vit très bien en vivant sur la neige et sur la glace. Et donc, on y est allé aussi, j'y suis allé aussi, pour aller voir ces aurores polaires. Et le 3 mars, alors, 1er mars, on a eu un petit peu, quelques aurores. Sur l'appli, justement, on voyait que la puissance des particules allait atteindre les 40 gigawatts. Alors, 40 gigawatts, on approche les petites tempêtes. Là, ça commence à devenir intéressant. Probabilité d'observer, là, on voyait que ça commençait à sortir du vert et aller dans le jaune. Ça veut dire qu'il y avait 50-60% de probabilité d'observer quelque chose avec des particules qui commençaient à être suffisamment énergétiques. Bon, voilà, quand on voit ça et qu'on voit que le ciel est dégagé, faut y aller. Et là, effectivement, 1er mars, on a vu, bah voilà, des belles aurores se développer dans le ciel. Ça n'a pas duré toute la nuit, ça a duré 2 heures, et au bout de 2 heures, le phénomène s'est estompé, et les prévisions disaient que, ah, ça y est, on avait baissé en intensité, déjà, la puissance des particules, bah le, on va dire, le gros du flot de particules était passé, et donc le spectacle s'était terminé, puis les nuages sont arrivés aussi, accessoirement. Donc le 1er mars, voilà, première soirée avec 2 heures de spectacle. Le 2 mars, non, il n'y a rien eu de spécial. Là, on est resté à 12, 13 gigawatts, donc pas trop de particules. Et de toute façon, le ciel était couvert. Le 3 mars. Alors, le 3 mars, dans les prévisions, là, l'indice capé est monté à 6. Alors, 6, ouais, là,
c'est sérieux, là,
on est dans les tempêtes classées mineures. Pour l'indice capé, c'est tempête géomagnétique mineure. Quand, et les, la puissance, donc un autre paramètre, 100 gigawatts. Et là, quand on atteint les 100 gigawatts, pour la puissance, là, on dit tempête géomagnétique sévère. Bon, là, faut y aller. Par chance, en plus, c'était dégagé. Alors là, le spectacle a duré 4 heures. On commençait même à voir les aurores au crépuscule. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas nuit noire à 18h30. Alors, le soleil, il se couche à 18h, là-bas, on va dire fin février, début mars. Le soleil se couche à 18h. Mais comme il est assez rasant sous l'horizon, il met du le crépuscule dure un moment,
du temps,
donc il
ouais.
fait pas nuit noire à 18h30, mais déjà à 18h30 on voyait les aurores polaires, on voyait le vert, on voyait c'est dans un ciel qui était encore bleu mais pas noir. Et alors ensuite, une fois que la nuit noire est arrivée, donc là le spectacle a duré jusqu'à minuit, donc de 18h30 jusqu'à minuit, et là c'était partout dans le ciel. Alors comme c'était des particules qui étaient puissantes, 100 gigawatts, l'ovale auroral, on va dire le cercle autour du pôle dans lequel on peut voir des particules, c'était un cercle qui était relativement grand. Et donc, pour moi qui me trouvais au nord de la Norvège, tout se passait à l'horizon sud. Si ce cercle est bien plus grand, on peut commencer à les voir depuis la France, ces aurores-là. Et donc, bon, là, c'était pas le cas. Mais en tout cas, pour moi, tout ce qui se passait, c'était à l'horizon sud. Donc, on regardait l'horizon sud avec des belles draperies et l'aurore a évolué. Alors ça a évolué d'un horizon à l'autre, hein, de l'est à l'ouest, mais c'est monté vers le zénith. Et donc là, on avait un flot de particules qui nous venait vraiment du dessus de la tête. Et vers la fin, vers minuit, c'est passé plutôt vers l'horizon nord. Donc on voyait que la puissance des particules décroissait et l'ovale aurorale commençait à diminuer en dimension. Et ça passait plutôt vers l'horizon nord. Mais il y a un moment, on était comme sous un parapluie de particules et on voyait, ça venait vraiment du zénith et ça se développait sur tous les horizons. Donc un spectacle magique. C'est hypnotisant.
J'imagine.
Regardez ça, c'est hypnotisant. J'imagine. Ça bouge dans tous les sens. Ça disparaît parce que les particules perdent en intensité d'un côté. Ça réapparaît de l'autre et ça, à nouveau, c'est très brillant et ça évolue partout dans le ciel. C'est magique. Donc ça, c'était le 3 mars. Et le 4 mars, à nouveau, pourtant l'indice capé était à 3, mais on remontait à 40 gigawatts, et donc on est quand même sorti, alors qu'il n'y avait rien de spécial, mais si, et donc on est sorti quand même, et là à nouveau, mais ça n'a duré, alors en tout ça a duré 2 heures, mais avec un maximum pendant un quart d'heure. Donc c'est pour ça que, on va dire, les paramètres étaient moins violents, c'était moins virulent dans les prévisions.
Ce ne sont pas des indicateurs vraiment fiables pour observer une...
Ben, ça donne une idée.
Ça donne une idée.
Ça donne une idée. Les paramètres n'étant pas très importants, ça veut dire que l'intensité était un peu plus faible et la durée sera moins longue.
Bien sûr.
Sinon, faut quand même sortir, faut en profiter. Et effectivement, le spectacle était quand même au rendez-vous, mais là, fallait pas le louper, fallait être aux bonnes heures, parce que le maximum de l'aurore n'a duré qu'un quart d'heure. C'était pas très intense au départ, ça l'était moins à la fin, mais au milieu, ça s'est vraiment excité et on voyait bien que les atomes d'oxygène rayonnaient dans tous les sens et donc ça c'est spectaculaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fantastique à voir. Alors je rappelle, il y a que sur les photos, sur les capteurs qu'on voit vraiment les couleurs.
Oui, parce que nos yeux ne sont pas capables
donc,
de les voir forcément.
Donc faut pas être déçu quand on se dit ah bon, on voit pas les couleurs en direct. Non, le rouge on le voit pas à l'œil nu comme ça. On le voit quand c'est vraiment très intense. Donc, je vous ai dit, en France, on devinait le rouge. Alors, c'est pas quand même une couleur très, très flashy, hein. C'est pas du rouge pétant. On voit quelque chose de rougeâtre. Donc ça, c'était en France. Là, non, c'était pas aussi violent que ça. On n'était pas à un indice 9. On n'était pas à une tempête géomagnétique sévère. C'est actuellement que le soleil est en train de changer complètement ses pôles. Nord et sud. Alors, l'activité solaire est maximum 2024 et 2025.
Voilà, c'est ça, je voulais vous situer.
Faut continuer à en profiter. On est dans le maximum d'activité du cycle solaire numéro 25. Mm-hmm. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc, même sans avoir des applications qui essayent de faire, qui tentent de faire des prévisions, mais finalement les prévisions sont quand même assez justes, mais nos satellites sont placés au point de Lagrange L1, c'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Les particules à la vitesse où elles vont, ça veut dire que vous avez entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc disons que c'est pas si on voit tout de suite là tempête géomagnétique, faut y aller. C'est 1 heure et demie après que ça arrive sur Terre. On n'a pas le temps d'aller en Norvège en 1 heure et demie. Donc, faut vraiment être sur place, on va dire. Et là, quand on est sur place et qu'on voit ça, on dit oui, il faut sortir. Et là, on a le temps d'aller dans un endroit dénué de toute pollution lumineuse. Les Norvégiens, vu qu'il fait quand même nuit assez tôt et assez longtemps dans l'année, ils aiment bien les lumières. Donc, dans toutes les maisons, toutes les pièces sont allumées. À l'extérieur des maisons, il y a des lampes sur tous les murs. Il y a de la lumière. Et puis alors, le long des routes, il y a du lampadaire. Donc, faut vraiment repérer les endroits dégagés, mais longtemps avant. C'est pas le soir où on se dit, ah, il y a quelque chose à voir, je devine derrière les lampadaires, mais où faut-il aller pour s'échapper à cette pollution lumineuse?
Bien sûr.
Il doit pas y avoir beaucoup d'astronomes amateurs en Norvège, vu la pollution lumineuse. Mais ils ont besoin de lumière aussi, parce qu'il fait toujours un peu sombre, en tout cas en hiver. Mais il y a des endroits spécialement prévus pour, il y a des parkings pour, et c'est tellement fréquent, on va dire, là-bas, eux probablement sont blasés.
Oui, mais pour les touristes.
Mais pour
non.
les touristes, alors c'est des parkings qui sont référencés Northern Lights. Donc ça s'appelle comme ça là-bas, les aurores polaires, c'est les lumières du Nord, Northern Lights. Et donc tous les parkings Northern Lights, c'est là où on peut rester garé, stationner, pour attendre le phénomène et admirer le phénomène. Alors on voit bien que c'est référencé parce que il y a tous les quarts de touristes qui débarquent, il y a du monde dans ces parkings-là. Alors malheureusement, tout le monde ne fait pas de l'astronomie, parce qu'en tant qu'astronome amateur, quand nous on veut se faire des soirées, celui qui arrive dans un parking, il éteint ses phares bien avant d'arriver dans le parking pour ne pas éclairer tout
pour
le monde alentour.
Ceux qui sont là, oui.
Voilà. Bon, maintenant on a des voitures qui sont équipées de feux de jour. On peut plus jamais les éteindre, ces feux de jour-là, à moins de couper le moteur. Donc quand on se garde dans un parking, malheureusement, nous arrivons avec des feux de jour, alors qu'avant on pouvait couper les lumières. Mais en tout cas, on éteint les phares, on éteint les codes. Mais voilà. Donc tout le monde n'étant pas équipé comme ça, bah, ceux qui viennent, les touristes lambda entre guillemets, bah, ils éclairent le parking pour venir se garer. Ça gêne un petit peu. Donc non seulement faut se trouver un parking assez dégagé, mais il faut aller loin du parking pour pas être gêné par toutes les voitures qui viennent s'y garer.
D'accord.
Mais le spectacle est fabuleux. Il y a encore toute l'année 2025 pour en profiter. Comme on va dire, le soleil ne s'arrête pas brutalement de produire des particules, 2026, il y aura toujours un peu quelque chose à voir quand même.
Ah bah
donc,
j'espère.
Faut en profiter. Mais par contre, 2030, on sera en plein milieu du minimum. Donc là, il y aura quand même des aurores à voir, mais elles seront moins intense, le spectacle sera un petit peu moins beau à voir.
Question, est-ce que sur le site d'Albireo 78, vous avez mis des photographies justement de ces aurores?
Oui,
j'ai
mis des photos sur
le
site,
pub.
Donc c'est gentil. Donc allez voir les belles aurores qu'on prend avec de simples appareils photo. Alors l'appareil photo, s'il n'est pas suffisamment sensible, il y en a qui sont très sensibles, on voit les aurores bouger en direct. Je n'ai pas ce genre d'appareil photo là, et donc je suis obligé de faire des pauses de 2-4 secondes à 1600 ISO. Mais en 4 secondes, j'ai brouillé tout l'aspect dynamique. Donc je vois bien les aurores, il n'y a pas de problème. Mais je perds l'aspect spectacle. Tout ce qui bouge dans le ciel est vraiment ce qui rend le spectacle hypnotisant.
Vous connaissant, je suis sûr que d'ici quelques temps, vous nous parlerez de ces nouveaux appareils photo spécialisés. Si ça viendra.
Il y en a.
Non mais vous concernant, j'en ai. Hein, oui.
Bah oui, il va falloir que s'équiper. Mais sinon, il y a certaines, on va dire, petites caméras. Les petites caméras pour filmer comme ça, genre GoPro, tout ça,
qui sont
suffisamment sensibles pour voir le spectacle en direct. Hein.
Merci Lionel, en tout cas pour ce sujet passionnant. Et puis votre prochain voyage, c'est peut-être pas la Norvège, ça sera ailleurs, j'imagine, pour aller voir les aurores.
L'année prochaine Norvège. Norvège. J'ai repéré le coin, je sais où il faut aller, le nombre de kilomètres qu'il faut faire pour s'échapper des lumières. Norvège l'année prochaine, c'est déjà prévu.
Eh bien voilà quelqu'un qui peut-être se fera naturaliser norvégien d'ici quelques années. Voilà Lionel, merci, à bientôt.